Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 2 octobre, il est 13h et vous écoutez le programme en français de la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et comme tous les dimanches, on commence avec le personnage qui marque l'actualité cette semaine. Le personnage de la semaine, c'est François Ozon, le réalisateur français qui revisite L'étranger de Camus dans une adaptation en noir et blanc qui explore l'indifférence et l'absurdité de la condition humaine. Qui est François Ozon? Quel est son parcours? Iléana Guillochon nous dresse son portrait.
Il aime explorer les secrets, les zones d'ombre, les personnages ambigus. Cette semaine, le producteur François Ozon revient avec une adaptation audacieuse. L'étranger d'Albert Camus. Tourné en noir et blanc, le film s'empare du mythe de Meursault, cet homme froid et indifférent qui est spectateur du monde. Une adaptation littéraire courageuse et risquée, qui en dit déjà beaucoup sur l'ambition et la curiosité du cinéaste français. Revenons sur son parcours.
Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et...
François Ozon est né en 1967 et il grandit à l'ombre de la Nouvelle Vague. Il est formé à la FEMIS, il débute dans les années 1990 avec diverses petites productions, dont Une robe d'été, un court-métrage audacieux sur la découverte du désir et de l'identité. Tout est déjà là, légèreté, gravité, trouble, il a plu car il a été nommé au César du meilleur court-métrage. Et très vite, il impose un univers unique, un regard à la fois tendre et cruel sur les relations humaines. Et en 1998, Sitcom installe son humour grinçant et il va enchaîner les longs métrages, confirmant son talent pour mêler drame et comédie. Chez Ozon, le sérieux se cache toujours derrière un éclat de rire. Prolifique, il tourne un film par an avec toujours la même envie, tout oser.
Moi, je ne suis pas le réalisateur d'un seul film. Voilà, il y a des cinéastes qui mettent 5 ans pour faire un film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une œuvre. Donc, c'est plein de films à la fois. Donc, je ne peux pas séparer un film d'un autre. J'aimerais que tous mes films restent et qu'on puisse voir tous mes films.
Et il semblerait effectivement que ce soit sa devise, car difficile de résumer le style de François Ozon tant il aime se réinventer. Depuis ses débuts, il cultive un vrai cinéma de la transformation, changeant de ton, de genre, de décor. Ses films explorent le désir, l'identité, le regard que l'on porte sur soi et sur les autres, tout en naviguant sur le drame, le burlesque, la comédie musicale ou le film noir. Son cinéma s'inspire de Fassbinder pour la tension, de Chabrol pour l'ironie et d'Hitchcock pour l'art du double. Et pour vous citer quelques diversités thématiques dans sa filmographie, en 1999, il sort Les Amants criminels, une relecture moderne du conte Hansel et Gretel. En 2002, il réalise une comédie policière avec 8 femmes, qui va d'ailleurs le propulser sur la scène internationale. Une année plus tard, il sort un thriller érotique avec Swimming Pool. En 2018, dans Grâce à Dieu, il signe un drame pudique, presque documentaire. Avec Été 85, sorti en 2020, il retrouve la fougue adolescente et la lumière des souvenirs. Et dans Mon Crime, sorti en 2023, il revient à la comédie, avec des femmes fortes, un dialogue ciselé, une élégance rétro et un humour piquant. Et effectivement, avec des thèmes qui varient d'une année à l'autre, son cinéma est un miroir. Il reflète nos désirs, nos hypocrisies, nos fragilités, toujours avec élégance et provocation. Il a d'ailleurs avoué, je cite, « Je sais que mes films ne feront jamais l'unanimité, Et tant mieux. Je préfère qu'il dérange, qu'il fasse réagir. Et ce qui est bien chez Ozon, c'est que tout le monde a sa place. Tous les âges, les classes sociales, toutes les sexualités, tous les genres. Il souhaite aussi redonner une place aux femmes âgées à l'écran, filmer la beauté naturelle des rides, un regard qui est rare et profondément humain.
Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.
Et c'est donc sorti le 29 octobre au cinéma. L'étranger est l'un des projets les plus surprenants d'Ozon. Il adapte une œuvre mythique et effectivement la plus lue, celle d'Albert Camus. Alors, on se rappelle tous de cette œuvre avec cette incipit culte, dite dans une indifférence assourdissante par le personnage principal Meursault. Je cite « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. » Ozon signe une adaptation sobre et sensorielle en noir et blanc, un choix réfléchi de sa part.
Le noir et blanc s'est imposé parce que je trouvais que ça apportait une forme de distanciation qui correspondait bien au regard de Meursault sur le monde. Et puis toutes les archives, toute notre mémoire collective de l'Algérie française, en tout cas pour moi qui ne l'ai pas connue, est en noir et blanc. Et c'était très important pour moi de me replonger dans l'histoire, de comprendre quand ce livre a été écrit en 1939, il est publié en 42, et que c'était une époque qui n'existe, enfin un pays qui n'existe plus, puisque l'Algérie c'était la France, c'était des départements français.
Benjamin Voisin incarne Meursault, un anti-héros pour qui tout est égal. L'amour, la mort, le meurtre, la vie, il a accepté l'absurdité de la condition humaine. À ses côtés, Rebecca Marder incarne Marie, donc sa compagne, et ensemble, ils donnent corps à un amour confronté à l'absence, où chaque mot résonne comme un silence. François Ozon brouille les pistes entre raison et émotion, entre silence et cri, et dans un monde où tout doit être expliqué, il filme un homme qui ne cherche rien à justifier, et peut-être est-ce là la plus belle fidélité à Camus.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous errer. Comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes. Nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
C'était Feu Chatterton sur les ondes de Radio SBS avec la chanson Le Labyrinthe. Messieurs, dames, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant avec la deuxième partie de notre dernier épisode d'Europa Voice. Christophe Mallet et Nathanaël Bloch parlent de Nigel Farage, le Brexiteur en chef, qui fait la course des sondages en tête.
Deuxième partie d'Europa Voice avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler du Brexit, on va en revenir dessus, même si le Brexit est loin derrière nous. La Grande-Bretagne n'en finit pas de se défaire de ce Brexit. Et là, il semblerait que le parti de Nigel Farage, qui était le grand artisan du Brexit, et son parti est en tête dans tous les sondages. Si aujourd'hui, il y avait une élection en Grande-Bretagne, Nigel Farage serait très vraisemblablement Premier ministre avec une énorme majorité au Parlement. Et ça, c'est un vrai changement.
Nigel Farage, Christophe, et son parti Reform UK, vous l'avez très bien dit, si aujourd'hui il y a une élection en Grande-Bretagne, il arrive largement devant les partis historiques que sont les travaillistes et les conservateurs. Les derniers sondages de ce mois-ci, en fait, le crédite de 31% des intentions de vote et seulement 21% pour les travaillistes et 18% pour les conservateurs. Donc, ce serait une victoire éclatante pour un des idéologues, un des promoteurs du Brexit, et pour surtout celui qui maintenant a une politique, de plus en plus affirmée et claire avec son parti Reform UK.
Quand on parle de chiffres, pour bien comprendre, aujourd'hui, Reform UK a, je crois, c'est 6 ou 7 députés. S'il y avait des élections demain, il se retrouverait, vous dites, à 31%, mais en termes de chiffres, on parle d'un nombre incroyable de ce qui pourrait être les députés par rapport, partant de 6, j'ai lu quelque chose autour de 300 députés.
Oui, on arriverait quasiment, Christophe, à une majorité, franche pour Nigel Farage. C'est toujours dur, de transformer les intentions de vote en nombre de sièges, mais ce qui est évident, c'est qu'il passerait d'un parti, résiduel, de niche à un pilier du système politique britannique. Et ça, ce serait vraiment un exploit pour celui qui, encore une fois, a été un des promoteurs du Brexit, peut-être celui qui a le plus fait la promotion de ce Brexit, à la fois, j'allais dire, en Grande-Bretagne, mais aussi dans les institutions européennes. C'est ça aussi, Christophe, qui fait que je crois qu'il a ce succès-là en ce moment, Nigel Farage, c'est que ceux qui veulent voter pour lui savent que, j'allais dire, il connaît l'ennemi de l'intérieur, maintenant de l'extérieur, mais il le connaît aussi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est capable de parler cette langue-là, il est capable de faire face à une von der Leyen qui est de plus en plus affaiblie. Il l'a été au Parlement, dans les institutions européennes. Donc, c'est véritablement quelqu'un, représente le meilleur des deux mondes pour ceux qui veulent une Grande-Bretagne indépendante, en dehors des grands partis, et aussi qui veulent faire face, ou en tout cas avoir une relation beaucoup plus de réelle politique avec l'Union européenne. Et c'est ça qui fait son succès, et c'est ça qui fait, encore une fois, hein, Christophe, il n'y a pas de boule de cristal Europa Voice, il n'y a aussi pas de boule de cristal chez les instituts de sondage, mais en tout cas, les résultats et en tout cas les tendances sont très claires quant à son succès probable aux prochaines élections.
Mais ce qui est très intéressant dedans, c'est que si on approfondit un peu dans les sondages et qu'on met deux sondages en corrélation, il y a aussi un sentiment en Grande-Bretagne que le Brexit est un échec. Et aujourd'hui, s'il y avait un référendum, c'est pas sûr que le Brexit gagnerait. Et pourtant, dans les autres intentions de vote au niveau des élections parlementaires, c'est le parti du Brexit qui gagnerait cette élection. Donc, est-ce que ça veut aussi dire que le parti gouvernemental a du mal à se connecter sur un sujet local, journalier et le coût de la vie et ce qui effraie un peu les Britanniques et le Brexit?
Moi, je crois surtout que, Christophe, que Nigel Farage, il a un peu ce côté, Trumpien. Ouais, Donald Trump, ouais, mais en termes de popularité politique. C'est-à-dire que c'est la personne, à un moment de l'histoire, qu'on a envie d'entendre pour une population donnée. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. C'est-à-dire que les Américains avaient besoin d'entendre Trump, malgré déjà à l'époque, hein, avant de se faire élire, toutes les casseroles qu'il avait et tous les scandales qu'il avait. Et en fait, pour Nigel Farage, c'est la même chose. Évidemment, c'est celui, c'est le partisan, le promoteur du Brexit. Et en même temps, effectivement, les Britanniques se rendent compte des conséquences du Brexit. Mais qui de mieux placé que celui connaît les relations, la manière dont l'Union européenne fonctionne et qui, de manière proactive, a voulu sortir la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, de l'Union européenne, qui de mieux que celui-là pour maintenant aller gérer une situation que, en fait, le Premier ministre actuel, Keir Starmer, ne gère absolument pas. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il profite d'un contexte politique local qui est vraiment très défavorable à Keir Starmer. Et ce qui le prouve d'ailleurs le plus, c'est que Keir Starmer est obligé de s'aligner sur des positions qui sont plutôt de droite et d'extrême droite pour éteindre un petit peu, l'incendie et ce qui se passe avec Nigel Farage, par exemple, sur la question du regroupement familial. Il a commencé à prendre des positions qui sont qu'on n'attendrait pas d'un gouvernement travailliste. Et c'est le cas sur plein d'autres sujets. Donc, en fait, aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est presque Keir Starmer, alors que c'est celui-ci qui est au pouvoir, qui court après Nigel Farage, et non l'inverse.
Ouais, tout à fait. C'est la donne, elle est là. Alors, les élections en Grande-Bretagne sont prévues dans 3 ou 4 ans. Hein. C'est pas tout de suite. Donc, énormément de choses peuvent changer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une chose qui focalise les Britanniques, c'est la crise migratoire et la relation de cette crise migratoire avec l'Europe, notamment la France. Là, c'est très tendu de ce côté-là. Et là, vous le dites, Keir Starmer n'a pas forcément toutes les réponses que les Britanniques attendent.
Non, il n'a pas toutes les réponses. Il y a eu de nombreuses manifestations anti-migrantes, de ce qu'on a appelé dans les médias les patriotes britanniques auprès des centres de migrants. Il y a eu l'affaire d'Epping en juillet dernier avec une histoire horrible mettant justement en jeu un migrant. Et donc, depuis ce moment-là, il y a une espèce, il y a presque une gilet jaunisation d'une certaine partie de l'opinion britanniques sur cette question des migrants. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas gain de cause ou tant qu'ils n'obtiendront pas des choses eh ben, ils continueront à être présents sur les ronds-points, sur les routes, à mettre des drapeaux nationaux pour demander justement des réformes sur ces questions migratoires, des remigrations, des réformes sur les questions du droit d'asile et faire le lien parce que il n'y a pas l'épisode d'Epping, c'est anecdotique en termes, mais c'est un déclencheur, c'est un marqueur extrêmement important que Keir Starmer doit écouter s'il veut conserver son électorat ou en tout cas s'il veut se faire élire aux prochaines élections. Et donc, il y a Nigel Farage, d'une certaine façon, il vient aussi un petit peu, c'est le meilleur homme, le mieux placé pour répondre à ces questions que se pose une partie des Britanniques sur ces questions migratoires, du droit d'asile, ces questions sociales aussi, où ils ont l'impression finalement de plus pouvoir faire les deux choses, de plus pouvoir être un pays d'accueil et en même temps de ne plus pouvoir, voilà, les questions du coût de la vie, de la misère sociale, etc., qui continuent d'augmenter. Et puis, vous l'avez mentionné, Christophe, vous l'avez rappelé, dans un contexte aussi d'une relation avec l'Union européenne qui ne, j'allais dire, facilite pas les transits. C'est-à-dire qu'une fois que les migrants arrivent au Royaume-Uni, ils arrivent au Royaume-Uni. Ils ne peuvent plus transiter ailleurs. Donc ça, ça crispe aussi d'une certaine façon l'électorat britannique qui, de fait, voit affluer des migrants qui, maintenant, doivent rester dans le pays. Et donc, c'est là où Nigel Farage est très fort. C'est que lui, il arrive à mettre le Brexit comme presque un élément central pour répondre à ces questions-là, alors que même, et vous l'avez dit en début d'interview, il y a sûrement beaucoup moins d'opinions favorables au Brexit qu'il n'y a d'opinions favorables à Nigel Farage. Et donc, c'est très ambivalent. C'est très ambivalent parce que, en gros, vous portez énormément de crédit à la personne qui a porté un sujet pour lequel, en l'occurrence, vous êtes beaucoup plus mitigé. Et donc, c'est un peu sur ce terrain-là que Nigel Farage va devoir composer et voir s'il est capable d'être cette réponse-là, parce que 4 ans, c'est encore long. Il y a des sondages actuellement, mais c'est encore long avant une élection.
Et bon, après, les Anglais, on les connaît pour leurs ambivalences, donc ça change pas, on n'est pas vraiment surpris, c'est aussi pour ça qu'on les aime comme ils sont.
Voilà, est-ce qu'on finirait vous finirez plus cette interview par parler de la perfide Albion, là, Christophe, j'ai l'impression.
Non, on va pas se lancer là-dessus, il n'y a pas de problème.
On va pas se lancer là-dessus.
Merci Nathanaël, et affaire à suivre, notamment dans un des prochains épisodes d'Europa Voice. Merci.
Merci beaucoup.
C'est une cabane faite de paille. D'un peu de bois, d'un peu de briques. Une cabane où l'on ripaille sur des vieilles tables authentiques. Il y a des amis, il y a la marmaille.
Bienvenue dans la maison des âmes en peine, mais heureuses de s'être vendues au diable.
Les yeux de la tête, la maison des âmes. À Malvern East, il y a une boulangerie un peu particulière, elle s'appelle The South Levin. Et on pourrait croire que c'est une boulangerie plutôt traditionnelle, croissant, pain au chocolat, flan parisien, fraisier, etc. Mais quelques fois par an, de temps en temps, cette boulangerie offre un menu tout mauricien, 100% de l'île Maurice. Nous avons rencontré la sœur et le frère derrière The South Levin, Johanna et Ben Jean-Louis.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Je suis dans nos studios de Melbourne avec Johanna et Ben Jean-Louis de la boulangerie-pâtisserie de South Levin à Malvern East. Bonjour Johanna, bonjour Ben et bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
Johanna et Ben, vous avez des racines mauriciennes. Je crois que Johanna, vous avez entre autres étudié à Paris. Parlez-moi de votre parcours avant de South Levin. Qu'est-ce qui vous a donné le goût du pain, des gâteaux?
Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu hospitalité. J'ai commencé mes études en Angleterre, culinary art à Southampton. Après, je suis venue joindre mon frère à Melbourne 2007-2008, je m'en souviens plus, dont j'ai étudié la pâtisserie. Après, j'ai travaillé un peu à Melbourne, pas un peu, je travaillais dans les restos, dans des cafés, et graduellement, getting promoted and running a pastry. Et I found a new love for pastry rather being the kitchen. 2017, on part en France, et là, je regarde un petit peu les écoles. Et là, j'arrive à Bercy. Et là, je vois UBP, École Boulangerie Pâtisserie. de Paris. Et là, je rentre, je commence à parler avec les dames. Et là, je dis, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, je fais une application comme ça. Et après, ils me disent, j'ai une lettre saying that I've been accepted. And then I was like, oh, okay, so basically I work hard, save my money, and then next year I go back in France, study for 1 year, full training in Paris. Yeah. And then the teacher, I remember, said to us, du moment vous commencez à faire le pain, vous allez tomber amoureux. Et c'est vrai, c'est une science, c'est extraordinaire de travailler avec le pain. Et la viennoiserie, obviously.
Et puis vous êtes retourné en Australie et j'imagine qu'ouvrir votre propre boulangerie, pâtisserie, c'était un rêve que vous aviez?
J'ai toujours rêvé d'avoir un petit resto ou café, mais boulangerie, c'était un peu... je sais pas. Et après, je suis pas retournée directement en Australie. Je suis retournée à Maurice et là, je travaille un petit peu dans une French bakery up north of the island. Et au moment de retourner en Australie, il y a Covid. On est resté, moi et Ben, on est resté à Maurice avec la famille. Et après 2019 ou 20, je me souviens plus. On est retourné en Australie et là, je commençais à travailler à Prahran Market. J'étais head pastry chef d'un petit shop qui s'appelle Sweet Greek. Et là, je travaillais pendant un an et quelques. Et un jour, Ben me dit, bon, on va faire quoi là? Je dis, what do you mean? Are we opening that business? Yes or no? And I was like, okay, let's do it then. C'est lui qui m'a motivé à le faire en général. Parce que moi, j'étais, okay, I'm good. Why would I get that stress of having a business and all that? And then Wally was like, let's do it. And then we start from there.
Une affaire de famille, donc vous avez des rôles différents, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites chacun?
He is a marketing, the fita, because he's Eterna and fita. He's all about fixing everything, the maintenance and paperwork, admin. Me, I'm more about the product development, the production and managing the staff.
Et comment c'est travailler ensemble, frères et sœurs? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous avez des conflits? Comment ça se passe?
Oh, same.
Well, il y a toujours des tiraillements, tu vois, là, il y a beaucoup... des arguments, mais on fait travailler des trucs.
Yes, it's good. We get along really well because he knows me, I know him. Yeah. So, yeah, it's, I think, really a good team. Because, like, when he knows his stuff, I know my stuff. When I say to him, please do this, he will do it. And when it comes to budgeting and all that, et je vais lui demander, et là, du coup, il va dire, no, let's do this way. On va le faire comme ça, on va faire comme ça. S'il y a une bonne entente, c'est du moment qu'il y a des compromis de sa part et des compromis de ma part, et ça marche. C'est pas tout le temps facile, mais je pense que pendant... ça fait un an qu'on est ouvert. Je pense que, ouais, ça marche entre nous. Ça n'affecte pas notre relation frère et sœur.
Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez à votre menu? Donc, vous avez du pain, des viennoiseries, des gâteaux. Qu'est-ce que vous offrez?
J'essaie d'emmener Paris normal Venise. Même le décor, les chaises, c'est très parisienne. On essaye de faire des gâteaux en française, des gâteaux françaises, mais avec une petite touche australienne. Parce que il faut pas oublier aussi qu'on est en Australie, les Australiens aiment bien, se retourner à leur base, à leur basic. On n'essaie pas de faire des trucs trop fancy, trop, je sais pas, comme les entremets, les macarons, parce que on a essayé, on a vu que ça ne marchait pas, les Australiens partent toujours ce qui est bien, à leur origine. On fait des spéciales françaises, comme les galettes de roi, on leur fait goûter, ils adorent. Et petit à petit, on introduit, les éduques, ça vient de telle région, la cuisine terroir en France, parce que je passais beaucoup de temps en France aussi. Et baguette de tradition, c'est un des big sellers, la viennoiserie. Comment vous dire ça? J'ai pris 3 ans pour développer ma pâte à viennoiserie, parce que il faut, quand j'étais en France, je travaillais avec la farine française. Et en revenant, parce que le lait, tout ça, c'est différent, c'est une science. Et en retournant de France, en retournant de l'île Maurice, j'ai dû importer le beurre de Belgique, de France, même servir les beurres australiens, Nouvelle-Zélande, et pour avoir notre produit final. Et aussi, on fait quoi, Ben? Beaucoup de sandwichs. Les Australiens, ils aiment le pie et leur sausage roll. Du coup, on fait une très bonne pâte feuilletée à la française et on met le sausage roll dans la pâte à feuilletée française. Voilà.
The best of both worlds.
The best of both worlds, yes, exactly.
Et yeah. Donc, un menu très français, mais j'ai vu que l'an passé, vous aviez un week-end, un événement spécial avec des plats de Maurice.
Oui, oui.
Racontez-moi, donc, qu'est-ce que vous avez servi durant ce week-end-là?
On fait ça 3 fois par an. Là, la prochaine sera en mars. En mars, pour la fête nationale de l'île Maurice. Et du coup, on a fait les pâtisseries mauriciennes. Parce qu'il faut savoir, il faut faire savoir aussi, parce que la pâtisserie mauricienne est très influencée par la pâtisserie française. On avait fait... génoise, on avait fait on a travaillé en collaboration aussi avec une autre pâtisserie mauricienne qui se trouve à Limbrook, ça s'appelle Wistakers. Eux, ils font la pâtisserie mauricienne. Et là, j'ai dit, ben, on va travailler ensemble. Et elle se dit, ah ouais, pourquoi pas. Et it worked really well, it was a great success, we sold out really quickly. Et c'était une très belle ouais. expérience.
On va le refaire
en mars.
Pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en pâtisserie mauricienne, donc qu'est-ce que vous aviez au menu?
Alors, il y a trois items qui sont très populaires dans la pâtisserie mauricienne. Un truc qui s'appelle Puits d'amour. C'est un genre de tarte sucrée, très sableux. Et on a une crème diplomate qui est poché et avec du coconut. Et avec, des fois, on met la gelée de fraises ou de framboises ou de cherry. La deuxième, c'est napolitain. C'est, encore une fois, deux biscuits sandwich together avec la confiture de framboise. Après, on met une glaçage rose au-dessus, et ça aussi, c'est très populaire. Et la troisième, je pense que c'est tarte banane. Tarte banane. Et on fait cuire les bananes très caramélisées. Après, on met in the tart, and then we just bake it. It's really good. Really, really good. Yeah.
Donc, vous avez été sold out, ça a été très bien accueilli. Est-ce que vos clients étaient surtout des gens de Maurice? Il y avait beaucoup d'Australiens aussi qui étaient intéressés. J'imagine qu'ils ne s'y connaissaient pas beaucoup.
Oui, il y avait aussi beaucoup d'Australiens.
Il y avait beaucoup d'Australiens qui veulent goûter, veulent essayer. C'est quoi ça? Vous voyez, il y avait du pâté poisson, pâté viande,
poulet,
tout ça. Mais
du feuilleté custard. Ouais. Yeah.
Ils voulaient essayer.
Ils ont vraiment aimé. Et ils m'ont demandé, ils nous ont demandé, c'est quand la prochaine. Pas seulement les Australiens, il y avait aussi les Indiens.
C'est ça, parce qu'il y a une grosse communauté indienne à Maurice aussi, donc j'imagine.
Oui, hindou, oui. Il y a une grosse communauté hindou, musulman. On est très multiculturel. Et c'est ça qui fait la beauté de l'île Maurice, très multiculturel. Là, bientôt, ça va être Chinese New Year. On célèbre ça aussi, comme la Pâque, comme le Eid. Comme le Ramadan, on célèbre, et comme Diwali, on célèbre et on mange.
Et vous disiez donc que le prochain événement mauricien, ça va être en mars.
Oui, en mars. On va faire encore plus parce qu'il y a des gens qui sont venus de Geelong, de Pointe-Cook, et quand ils sont venus, c'était ça, it was sold out, et là, ils n'étaient pas contents. Hein. Là, on va faire encore plus, mais... La dernière fois, on a fait plus de 2000, presque 3000, quoi. Individuels, gâteaux, des trucs salés. Et à 11h, we were sold out. Yeah.
Donc, on va garder un œil là-dessus. Alors, j'imagine qu'en vous suivant sur Instagram, on peut être au courant à chaque fois que vous répétez le week-end mauricien, donc pour savoir exactement c'est quand.
Yeah, yeah. On va mettre tout ça sur Insta, yeah.
Donc, on rappelle de ça, le vin se situe à Malvern East. C'est tout près du centre commercial Chadston. Merci beaucoup, Johanna et Ben, d'être venus nous visiter en studio à Melbourne.
Oh, thank you so
Merci
much.
Beaucoup.
Thank you so much for welcoming us. It was an honor. We're very happy to be here.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Je me taille des costards, je me donne des noms d'oiseaux, gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
Bertrand Belin sur les ondes de Radio SBS avec la chanson « La Béatitude ». On vous propose à présent pour finir cette émission un épisode de l'Histoire cachée de l'Australie. Grégory Pless et Romain Fatty s'intéressent à Billy Hugh, le Premier ministre durant la Première Guerre mondiale en Australie. Quel était son parcours ? Réponse.
In Sweden, we believe in just the right amount. Embracing balance, minimalism and simplicity. Something that Volvo believe in too. And when it comes to choosing your next car, we believe in just the right amount of choice. Between petrol, plug-in hybrid and fully electric, there's a Volvo for everyone. So visit your local Volvo retailer to learn which one is right for you. Volvo.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre Billy Hughes. On va s'intéresser dans celui-ci à l'impact qu'il a eu sur la scène internationale. On verra aussi comment en Australie, sur le plan national, il a su s'affranchir des partis pour défendre ses propres idées. Et de cette manière, rester un parlementaire absolument stratégique tout au long de sa très longue carrière. Alors, vous mentionniez comment il s'est beaucoup investi aussi pour défendre les intérêts de l'Australie à l'international. Alors, on avait vu encore une fois sur Alfred Deakin que lui aussi avait pas mal été impliqué au niveau de l'Empire britannique, on va dire. Là, ce que j'ai remarqué comme différence avec Hugh, c'est que ça va au-delà de Londres. Il commence à être identifié par tous les grands de ce monde à l'époque. Et il va notamment participer aux négociations qui vont conduire à la signature du traité de Versailles en 1919. Alors, vous disiez, ces voyages à l'étranger, ça implique de très longues absences. J'ai vu que pour ces négociations, il était hors de l'Australie, et en l'occurrence à Paris, pendant quasiment un an et demi. Ça semble fou qu'un dirigeant d'un pays puisse diriger son pays tout en étant éloigné pendant aussi longtemps. Et pour revenir sur ces négociations et les positions de Billy Hughes au cours de celles-ci, j'ai retenu trois choses sur lesquelles j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Alors déjà, il obtient que ce soit l'Australie qui remplace l'Allemagne en tant que puissance coloniale en Nouvelle-Guinée. Donc c'est une partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie à l'époque est déjà colonisée par l'Angleterre. Il a des rapports extrêmement tendus avec le président américain Woodrow Wilson, qui est l'une des figures de ces négociations post-Première Guerre mondiale. Et puis enfin, il est un très très farouche opposant, si ce n'est le plus farouche opposant, à une proposition alors portée par le Japon qui vise à interdire la discrimination raciale. Est-ce que ça résume bien ce Billy Hughes, ces trois points que j'ai retenus sur son intervention au cours de ces négociations?
Oui. Alors, c'est vrai que nous, ça nous paraîtrait absolument aberrant si notre Premier ministre ou notre Président partait à l'étranger, gouvernait depuis l'étranger pendant un certain moment. Mais à l'époque, c'est accepté, il n'y a pas vraiment le choix. Et puis, par ailleurs, il y a des avancées technologiques très surprenantes, telles que le télégraphe qui permettent de pouvoir faire ses affaires à distance. Enfin, ça nous paraît une technologie vraiment du passé, mais pour les personnes de cette époque, ça a changé la vie. Et donc, effectivement, il se retrouve propulsé à Londres, à Paris. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que là où on avait des premiers ministres australiens pro-British pendant des années, et avant et après lui d'ailleurs, lui, effectivement, son intérêt, c'est celui de l'Empire, mais c'est surtout celui de l'Australie. Et il fait partie des premiers ministres les plus nationalistes au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Australie en premier. Parce qu'avant et après, en fait, l'Australie fait partie de l'Empire, et donc il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'Empire, c'est une question qui ne se pose pas. Les Australiens se conçoivent comme britanniques, donc voilà. Mais Hughes veut que les sacrifices des Australiens, qu'ils soient en termes de vie au front, que ce soit en termes économiques, pour soutenir l'effort de guerre impérial, soient récompensés, que l'Australie ne soit pas oubliée. Et à l'époque, le cabinet de guerre britannique et le ministère des Affaires étrangères traitent pour l'Empire, si vous voulez. La nouveauté, c'est que lui se pointe à la table des négociations et tout simplement impose son siège en disant « je suis le Premier ministre, certes, d'une nation qui fait partie du Commonwealth, enfin de l'Empire, mais elle a ses propres intérêts ». Et dans ces intérêts, il y en a plusieurs. Il est plutôt bon copain avec Clémenceau parce que c'est un des hommes les plus virulents pour faire payer l'Allemagne. Alors, Clémenceau n'est pas d'accord avec Hughes sur pas mal de choses, mais enfin, c'est pas grave, ça lui permet d'avoir un petit zigoto très dynamique, très remonté contre l'Allemagne. Et Clémenceau peut dire à Wilson et à Lloyd George, vous voyez, moi finalement, je suis quand même plutôt modéré comme bonhomme. Bon, alors, il y a cet aspect-là. L'aspect que vous avez rappelé avec Wilson est vrai. Au début de la conférence, ça se passe très très mal, parce que Woodrow Wilson a cette idée qu'en fait il faudrait une paix juste et puis créer la Ligue des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Et en fait, Hughes, lui, tire la couverture vers lui en disant « oui, mais l'Australie, on voudrait récupérer des territoires allemands dans le Pacifique, votre projet de Ligue des Nations, je ne sais pas trop où ça va aller ». Et puis Wilson lui dit « mais attendez, il y a 1 milliard de personnes dans le monde et vous êtes en train de m'embêter avec vos 5 millions ». Et de façon très célèbre et très reprise dans la presse à l'époque, Hughes lui répond « mais moi, monsieur, je parle pour 60 000 morts ». Parce qu'effectivement, tout petit pays, l'Australie, à l'époque, mais beaucoup de morts proportionnellement dans la Première Guerre mondiale, alors qu'on le sait bien, les États-Unis, le gros des troupes est arrivé en 18 pour la fin. Donc, ce petit monsieur d'un coin de l'Empire qui recadre le président des États-Unis, qui n'était pas la puissance que l'on connaît aujourd'hui, mais enfin, qui était une puissance émergente très très importante à l'époque. Là, en revanche, où il va s'unir main dans la main avec Wilson, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, quand les Japonais proposent qu'au sein du traité de Versailles soit établi ce qui est appelé à l'époque la clause d'égalité raciale. Parce qu'effectivement, à l'époque, c'est un monde d'empire. Vous avez l'Empire britannique, l'Empire allemand, l'Empire français, etc., etc., l'Empire russe. Les Japonais sont eux aussi très enjoués à l'idée de développer leur propre empire, ce qu'ils feront dans les années 20 et 30. Hein, et puis, on sait ce que ça donne avec la Deuxième Guerre mondiale. Et à Versailles, en 19, les Japonais veulent que l'égalité des races soit au moins mentionnée ou reconnue officiellement. Branle-bas de combat pour Hughes et pour Wilson, parce que Wilson représente des États-Unis où la ségrégation fait rage. Donc, admettre l'idée d'égalité raciale sur le plan international, vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir aux États-Unis. Pareil pour Hughes. Il le dit à l'époque, hein, le premier ministre australien qui remettrait en cause la politique de l'Australie blanche perdrait son boulot du jour au lendemain. On en a parlé dans plusieurs épisodes. À l'époque, en Australie, si vous n'êtes pas blanc et d'origine européenne, vous ne rentrez pas. C'est un pays totalement fermé et complètement raciste. Et Hughes n'échappe pas, même s'il est de gauche, enfin de gauche, de cette gauche de l'époque, il n'échappe pas au paradigme central de l'Australie de l'époque, que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, vous êtes généralement complètement raciste. Il l'est à l'égard des aborigènes. Il y a des phrases que je ne répéterai pas ici qui sont d'une violence sans nom contre les aborigènes et l'époque de la colonisation. Mais il l'est aussi à l'égard de tous les Asiatiques qui, autour de l'Australie, s'il y avait une clause d'égalité raciale, il se pourrait que peut-être un jour ces personnes veuillent vouloir travailler en Australie. Et comme le Parti travailliste doit protéger les travailleurs, l'immigration qui pourrait faire baisser les salaires, c'est non. Donc en fait, est-ce que c'est un racisme biologique ? Je n'étais pas dans sa tête ou dans son cœur. Mais en tout cas, est-ce que c'est un calcul politique ? Oui, c'est un calcul politique. Et Hughes est un fervent défenseur de la politique de l'Australie blanche. Ce qui fait que quand son pays avance dans les années 40 et dans les années 50, lui passe vraiment de la gauche à la droite modérée à finalement ce que nous on qualifierait d'extrême droite aujourd'hui.
Ouais. Alors justement, je voulais revenir plus largement sur sa carrière au sommet de l'État. On l'a dit, il va être Premier ministre jusqu'en 1922, et dans cette jeune fédération australienne, c'est un record de longévité à ce moment-là. Et il détient toujours, et je pense que ce sera très difficile à battre, un autre record de longévité. Je l'ai dit en introduction, il est le seul parlementaire australien dans l'histoire à avoir siégé sans discontinuer plus de 50 ans à la Chambre basse. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, il a pas mal évolué dans sa carrière en termes de parti politique. On peut pas dire qu'il a été très fidèle au parti politique, peut-être un peu plus à ses idées, du moins en partie. Et en fait, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est qu'on sait que dans le cadre d'élections, etc., enfin, le soutien d'un parti, qui plus est un parti politique un peu costaud, qui a des moyens de financer une partie au moins de votre campagne, c'est quand même clé pour se faire réélire. Mais le fait justement qu'il ait surfé d'un parti à l'autre et évolué quand même assez nettement en termes d'idéologie, vous disiez passer de la gauche à un équivalent aujourd'hui de l'extrême droite, est-ce que ça, vous pensez, participer à la longévité de sa carrière politique?
Oui, vous avez raison. Il faut une machine de parti pour être élu. Et donc, en fait, à mesure que Hughes n'arrive pas à convaincre le parti, et ben, si vous voulez, il les quitte. Il les quitte, il prend les hommes compétents qu'il y a dedans, et puis il recrée un parti. Et donc, c'est quelqu'un qui a changé 6 fois de parti politique. Voilà, si vous
et qui s'est fait
gauche ou droite,
et qui s'est fait éjecter 4 fois sur 6 du parti dont il était membre. Ouais.
Excusez. Non seulement dont il était membre, mais parfois dont il était à la tête. C'est-à-dire que sur les 6 partis dans lesquels il a été, à un moment donné ou à un autre, il en a dirigé 5 de ces 6 partis, et il s'est fait virer à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un qui, très franchement, pour lui, c'était pas grave, ça faisait partie du jeu politique. Ce qui compte dans le jeu politique, c'est d'être aux commandes. Et à partir de ce moment-là, il est très clair avec lui-même, comment puis-je être aux commandes? Je ne vais pas attendre un cycle électoral ou deux que mon parti revienne au pouvoir. Je change de bord. Pas nécessairement en changeant toutes mes idées, mais parce que ce qui m'importe, c'est que les choses avancent. Et si vous voulez, à l'époque, il fait partie des grandes figures politiques auxquelles ces changements de bord pouvaient être pardonnés parce que les Australiens y voyaient parfois un certain avantage également. Donc en fait, c'est pas quelqu'un d'idéologique, de statique, de dogmatique. Il l'est à certains égards, hein, sur la question... sur le racisme, par exemple, oui, ça, y a pas de doute. Mais sur les questions de politique économique, par exemple, c'est quelqu'un qui a un petit peu fait tout et son contraire pendant sa carrière, suivant les partis auxquels il prêtait momentanément donc allégeance. Mais, on est forcé de constater qu'en fait, c'est une stratégie qui a payé pour lui du point de vue professionnel, parce qu'il est quand même député pendant 50 ans. C'est incroyable. Il est député à la première assemblée australienne en 1901. Et puis, il meurt au poste en 1952. Et en parallèle de ça, c'est quelqu'un qui a changé d'électorat. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu le même électorat pendant ses 51 années et quelques, 51, pardon. Il a plusieurs fois changé de géographie parce que la géographie électorale changeait, parce qu'il changeait de parti et que parfois il est plus simple de se faire élire dans telle circonscription que dans telle autre. Donc c'est un Machiavel, c'est certain, mais il faut quand même lui reconnaître un certain génie politique en fait. Et d'ailleurs, même une fois qu'il n'est plus Premier ministre, en fait, si vous voulez, à un moment donné, un des partis, le Country Party, le parti de Hughes est mis en, pas en ballottage, mais il se retrouve dans une situation de gouvernement de minorité en fin 22, et l'accord qui est trouvé avec le parti de coalition, le Country Party, c'est qu'en fait, ils veulent bien leur apporter les voix au parti de Hughes, mais faut que ça change de main. Et donc, l'Australie change de premier ministre avec quelqu'un qui s'appelle Stanley Melbourne Bruce. Et Hughes, bien évidemment, le prend pas très bien. Et en 28, quelques années plus tard, il fait tomber le gouvernement. Et en fait, il continue à avoir un impact sur la politique australienne nationale pendant assez longtemps. Il est passé à très peu de choses de se faire réélire premier ministre en 1939, par exemple.
Okay.
Donc c'est pas qu'un premier ministre de la Première Guerre mondiale. Non, c'est quelqu'un qui définit la politique australienne pendant plusieurs décennies, voire pendant plusieurs générations, et dont l'impact est encore présent jusqu'au début des années 50. Oui.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world. Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci pour votre fidélité. Vous pouvez la retrouver en intégralité ou par chronique sur notre site internet www.com.au/sbsfrench. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très beau dimanche après-midi. Au revoir, messieurs, dames, à mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.